France Inter.
Franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, une histoire de l'opéra. Opéra, spectacle dramatique et lyrique où l'on réunit tous les charmes des beaux-arts pour exciter l'intérêt et l'illusion. Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de la musique. Ans d'histoire. Il n'y a rien de moins naturel que l'opéra. A-t-on vu un conspirateur demander le silence en chantant à tue-tête, ou une femme affligée exprimer son désespoir en faisant des cabrioles, écrivait Théophile Gautier? Non, bien sûr, pas plus qu'on imagine un homme chanter pendant 10 minutes avec un poignard dans le dos. Tout cela n'est pas très réaliste et pourtant, depuis qu'il est né en Italie, il y a 400 ans, l'opéra n'a jamais cessé de passionner des millions d'inconditionnels, fascinés par ce spectacle qui mobilise tous les arts, toutes les musiques, tous les sens et tous les sentiments. La tristesse, la joie ou même la révolte de ces Italiens qui, au XIXe siècle, après un opéra de Verdi, descendaient dans les rues de Milan pour faire le coup de feu contre leurs occupants autrichiens. Jamais la musique n'a suscité autant de passion que l'opéra, qui est le seul spectacle où l'on siffle encore un chanteur, parfois même avant qu'il ait ouvert la bouche. France Inter, Éric Delvaux, le 11 décembre dernier.
Un scandale hier soir à la Scala de Milan. En pleine représentation de Aïda, le ténor Roberto Alagna n'a pas supporté d'être sifflé par une partie du public. Il a soudainement quitté la scène. Roberto Alagna dénonce une cabale contre lui devant une salle, dit-il, hostile. Roberto Alagna, joint à l'instant par Cyril Sauvageau.
C'est vrai que depuis un mois que j'étais ici, je sentais, on m'envoyait des messages, des coups de téléphone, des trucs en me disant « attention, il va se passer ci, il va se passer ça bon, ». Et je l'ai senti venir. Bon, le problème, c'est pas ça, c'est que d'habitude, on conteste un chanteur qui a raté une note ou qui a fait quelque chose de mal. Là, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Donc le rideau s'est ouvert et on a commencé à huer. Et donc j'ai préféré arrêter, voilà, donc c'est tout.
C'était Roberto Alagna en 1998 dans Aïda. Aïda qui n'a pas eu le temps de chanter à la Scala en décembre dernier. Claire de la Marche, bonjour.
Bonjour.
Alors l'opéra est sans doute le seul art, le seul musique où l'on siffle encore un artiste, alors qu'à la télévision on vous demande d'applaudir un chanteur, même s'il chante comme une casserole. Vous le rappelez dans un livre, l'opéra pour les nuls, le public de l'opéra a toujours été très exigeant et passionné.
Tout à fait, oui. C'est un peu pour les raisons que vous évoquiez dans vos accroches, c'est que l'opéra réunit plusieurs arts et d'une certaine manière vous tient captif parce que il sait vous séduire, il sait vous convaincre, il sait vous émouvoir, il sait vous faire rêver, il sait vous édifier parce que longtemps il y a eu un côté moralisateur à l'opéra. Quoi qu'il en soit, si vous fermez une fenêtre, il entre par la porte. Inversement, il trouve toujours un moyen de vous happer, en fait. Et les puissants de ce monde ont très vite compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer de l'opéra et de son pouvoir énorme de fédération des gens, d'émotions, de convictions, d'illusions.
Et cela depuis 400 ans. Il est né exactement en 1600. Qu'est-ce qu'on chantait avant qu'existe l'opéra ?
Avant que naisse l'opéra, autour de 1600, on va dire, pour se fâcher avec personne, il y avait depuis longtemps des diverses formes de divertissement qui mêlaient la musique, le théâtre, la peinture, éventuellement la chorégraphie, des petits décors, des petits costumes, et qui étaient toujours dans l'esprit du divertissement. Donc, par exemple, à la cour de Florence, c'était pour célébrer des noces, pour un anniversaire princier, on réunissait des artistes. sans vraiment réfléchir à l'impact que ça pouvait avoir. C'était juste pour plaire aux invités.
Il y avait aussi des pièces qu'on jouait à plusieurs, qu'on a chanté à plusieurs voix, le motet, il y avait aussi le madrigal, et je crois qu'on ne comprenait pas toujours ce qui se disait. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a voulu faire de l'opéra ou fabriquer les premiers opéras.
Le motet, le madrigal ont la particularité d'être des œuvres polyphoniques à la base, donc avec plusieurs voix qui se superposent et qui ne chantent pas forcément la même chose en même temps, donc fatalement le texte est un peu noyé. Alors il y avait déjà des simplifications dans le madrigal. Monteverdi écrit des madrigaux à tendance déjà monodique où une voix se dégageait avec un accompagnement pour justement rendre intelligible le texte. Il y avait déjà des tentatives, tout n'est pas né d'un seul coup. Et il y avait aussi depuis longtemps des formes comme les jeux médiévaux qui mêlaient le théâtre et le chant, notamment dans un cadre religieux. Enfin, il y avait divers genres qui ont convergé en fait vers l'opéra. Et alors, puisqu'on évoque la naissance de l'opéra, en fait, c'est un cénacle à Florence d'intellectuels qui se réunissaient chez le comte Bardi. Il y avait 4 compositeurs et puis des poètes, toutes sortes de gens, un peu sur le modèle de la Pléiade en France, qui ont, justement pour retrouver une simplicité perdue dans le chant et dans le théâtre, ont essayé de reconstituer ce qu'était la tragédie au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, donc les tragédies qui étaient chantées par des solistes et des chœurs, pour retrouver la force tragique qu'on avait perdue dans ces formes mi-chantées, mi-théâtrales.
Et ça a donné justement ce qu'on considère comme le premier opéra de l'histoire, écrit par un certain Jacopo Peri, qui, à l'occasion du mariage du roi de France Henri IV avec Marie de Médicis, avait fait jouer donc à Florence une œuvre révolutionnaire, Eurydice. C'était le 6 octobre 1600. Écoutez, c'était le premier opéra de l'histoire. C'était un extrait d'Eurydice de Jacopo Peri, le premier opéra de l'histoire avant la lettre, hein, parce qu'on n'employait pas encore le mot opéra, je crois.
Non, l'opéra était. Le terme d'opéra est né a posteriori, en fait. On appelait ça fable en musique ou drame en musique. C'est le mot drame en musique qui s'est imposé longtemps. C'est la postérité qui a imposé le mot d'opéra, qui veut dire ni plus ni moins qu'ouvrage en italien, en fait. Oui. Hein, œuvre, ouvrage. Donc,
auquel on a donné le nom d'un genre, le nom du lieu aussi où ça se passait. Oui. Qu'est-ce que ça avait de révolutionnaire, cette musique qui nous paraît extrêmement classique aujourd'hui?
Le passage qu'on vient d'entendre, en fait, c'est pas forcément ce qui était le plus significatif chez Peri, parce que là, on est dans le style de ces chansons qui commençaient à se simplifier. On voit que tout le monde chante la même chose en même temps, même si c'est pas les mêmes notes, mais on entend très bien le texte. Et la particularité en fait des premiers opéras, c'est pas tellement ces chœurs, c'est ce qu'il y avait entre, c'est la partie du drame individuel où on essayait de trouver en musique un équivalent de la déclamation parlée, donc avec un chant très souple qui suivait de très près les inflexions de la voix. Et c'était le récitatif. Recitar cantando, donc réciter, déclamer en chantant, qui était la nouveauté absolue, puisque ça faisait passer le drame au premier plan, presque devant la musique.
Alors ça, c'est à Florence, hein, Peri, cet opéra, c'est à Florence, mais alors tout de suite, ça se répand dans toute l'Italie. Il y a 3 grandes villes, en réalité, qui sont un peu les mères de l'opéra, c'est Florence, c'est Rome et c'est Venise, Claire de la Marche.
Alors c'est très drôle parce qu'effectivement, on dit 1600 Eurydice à Florence, mais en 1600, il y a aussi un opéra qui est représenté à Rome, de Cavalieri, qui s'appelle « La représentation de l'âme et du corps ». C'est un opéra sacré, puisqu'on est à Rome et que c'est les cardinaux qui financent. Mais bizarrement, alors qu'à Florence, on est à la limite encore du divertissement, même si on essaye de retrouver l'âme de la tragédie, donc un pouvoir expressif assez fort, c'est à Rome qu'on va commencer à mettre encore plus de passion, déjà une certaine extravagance, parce que les jésuites ont tout de suite compris le parti qu'ils pouvaient tirer justement du pouvoir expressif de la musique. Et d'une certaine manière, ils ont utilisé les instruments du diable pour édifier les chrétiens. Donc la représentation du corps et de l'esprit a donné naissance à un opéra romain beaucoup plus exubérant que cet opéra florentin.
Et puis à Venise aussi, où il est devenu très vite populaire, parce qu'il y avait déjà pas mal de théâtres où on y jouait, je crois qu'on pouvait y accéder assez facilement.
La grande nouveauté, c'est qu'à Venise, on a compris le parti financier qu'on pouvait tirer de l'affaire. C'est-à-dire que les princes continuaient de payer, mais en construisant les premiers opéras publics, où on achetait ses billets et on assistait à une représentation d'opéra, eh ben, ils ont fait de l'opéra commercial, ils ont commencé. Et qui dit opéra commercial a dit surenchère dans les effets techniques, dans les décors, dans les starisations des chanteurs, notamment la Tchekina qui était la fille du co-auteur de cette Eurydice, qui est devenue une star très vite. Enfin, on est entré dans le star system à partir de l'ouverture du théâtre de Venise, le premier en 1637, donc...
Et puis l'opéra va sortir des frontières de l'Italie, arriver en France, où un Florentin d'origine, Lully, allait introduire l'opéra à la cour de Louis XIV. Louis XIV, tout surpris de voir son maître de musique lui proposer justement un opéra.
L'opéra t'intéresse maintenant. C'est nouveau.
Je vous écrirai des tragédies en musique. L'opéra, mais français. Vous en serez l'instigateur, le maître d'œuvre. Rien que du chanter. Mais j'insiste, mêlé au ballet qui fait notre gloire, sans fioriture, sans outrance à l'italienne de la rigueur, de la noblesse, de l'élévation, les puissants et les dieux ne seront pas chantés par des voix efféminées à la manière des Italiens, mais bien par des basses, des barytons français, sire. Il n'y aura plus dorénavant qu'une seule musique pour la France. Une seule.
C'est Alceste, un des tout premiers opéras français créés à Versailles en 1674. Un opéra français, hein, Lully, on l'a entendu, insiste. Qu'est-ce qui le distingue de l'opéra italien? Puis on a entendu aussi qu'il s'agissait d'un opéra ballet. Hein. Il faudrait peut-être qu'on évoque un peu tous les différents genres d'opéra qui apparaissent au fur et à mesure, justement, que le genre se développe, Claire Delamarque.
Alors, déjà pour reparler de la France, Mazarin avait essayé d'introduire l'opéra italien en France. Et notamment, il venait juste de mourir, mais pour le mariage de Louis XIV, il a fait monter l'Ercole Amante de Cavalli. Il y avait eu d'autres tentatives auparavant, et ça n'a jamais pris en fait en France. Le public français et la cour restaient complètement imperméables à ce genre, qui était donc devenu, grâce à ce qu'on disait tout à l'heure de l'aspect commercial qu'avait pris le théâtre à Venise, c'était devenu une débauche de technique et surtout un chant déjà très virtuose. Et ça allait complètement à l'inverse de l'esthétique française de la tragédie qui était à son fait, la tragédie théâtrale, hein, j'entends. Et donc Lully a eu l'idée de génie d'essayer de reproduire à l'opéra l'équivalent de la tragédie théâtrale. Donc ça s'appelait des tragédies en musique ou tragédies lyriques, où il a retrouvé déjà le côté institutionnel, puisqu'on était à la cour de Louis XIV, qu'il avait un monopole, donc il n'y a que lui qui pouvait faire des opéras, on ne pouvait pas en faire en dehors de lui en France. Donc déjà, le côté édificateur du prologue à la gloire du roi, et puis de l'intrigue qui va dans le sens du roi, et puis un travail sur le texte qui est beaucoup plus important qu'en Italie, très proche de la déclamation parlée, et puis un côté très solennel. Et puis les ballets, parce que c'était quand même un divertissement de cour malgré tout.
Mais en ce qui concerne, pour un profane comme moi, quelle différence y a-t-il entre ces genres qui apparaissent à ce moment-là, l'opéra seria ou l'opéra buffa, hein, l'opéra bouffe?
Alors, on a parlé des excès de l'opéra vénitien. Dans l'opéra vénitien, on mêlait les nobles et les valets, le tragique et le comique, pour plaire au plus grand nombre et avoir le plus d'effets possible. Et il y a eu une réforme au XVIIe siècle menée par... les deux poètes officiels de la cour de Vienne, Zeno puis Métastase qui a été pendant 50 ans, de 1730 à 1782, poète officiel de la cour de Vienne. Et lui, surtout Métastase, ont voulu clarifier la situation et redonner à l'opéra une noblesse qu'il avait perdue, un côté édificateur qu'il avait perdu.
C'est ce qu'on appelle l'opéra serial.
Alors on a éjecté un peu les éléments comiques qui se sont émancipés et qui ont formé l'opéra bouffa. Et donc c'est a posteriori qu'on a décidé que ce nouvel opéra s'appelait Opéra Seria, alors que jusque-là c'était drame en musique.
Et entre-temps il était passé aussi, il avait traversé la Manche avec un Allemand, assez curieusement, c'est Handel qui a amené à Londres, où il est arrivé en 1712, il a écrit 36 opéras, il y a eu aussi Purcell, il est passé également en Allemagne, à la cour de Russie, et est arrivé aussi en Allemagne avec Telemann et plus tard avec quelqu'un qui va jouer un rôle considérable en bouleversant l'histoire de l'opéra, Mozart, auquel l'empereur d'Autriche Joseph II commandait un opéra en 1782.
Jeune homme, nous voulons vous commander un opéra. Qu'en dites-vous ?
Majesté.
En définitive, avons-nous enfin tranché pour l'allemand ou l'italien ?
Oh, en allemand, Majesté, je vous en prie, en allemand.
Pourquoi ?
Parce que j'ai déjà trouvé un merveilleux livret d'opéra.
Racontez-nous le sujet.
L'histoire se déroule dans un harem, Majesté. Dans un sérail.
Cela se passe chez les Turcs ?
Oui.
Alors pourquoi obligatoirement en allemand ?
Majesté, vous choisissez la langue. Je me ferai un devoir de l'orner de la plus belle musique jamais offerte à un monarque.
Bien, il en sera ainsi. Livret en allemand.
C'était l'enlèvement au sérail des chœurs en l'honneur du Pacha par le Philharmonique de Vienne dirigé par Solti. À quel genre appartenait cette musique assez extraordinaire de Mozart, cet opéra ? C'était un Singspiel, c'est ça qu'on appelait ça ?
Oui, un Singspiel, donc une pièce chantée, ni plus ni moins. Hein. C'est un genre qui provenait de France, d'une certaine manière, de l'opéra comique. L'opéra comique n'a rien de drôle, a priori. Hein. C'était juste un genre mêlant théâtre et partie chantée. Et donc Mozart s'est inspiré de ce modèle-là à la suite de Gluck et d'autres gens pour l'enlèvement au sérail.
Avec un succès absolument considérable, c'est un des plus grands succès d'opéra qu'on peut imaginer. Bon, c'était Mozart, il maîtrisait tous les genres de musique, mais là, il n'a pas écrit beaucoup d'opéra, mais celui-là était un grand succès, peut-être parce qu'il était précisément, on l'a entendu, en allemand, Claire de la Marche.
Oui, c'est vrai, cela dit, le plus grand succès de Mozart, c'est peut-être les Noces de Figaro qui a engendré la commande de Don Giovanni, et il était en italien. Donc c'est aussi beaucoup le génie de Mozart qui a su puiser dans tout un tas d'influences, donc l'opéra comique français, mais l'opéra italien, l'opéra bouffa, l'opéra seria, pour faire des genres qui transcendent les barrières. Parce que justement, lui, il a réintroduit le bouffe dans le sérieux dans le bouffe, et toujours sur le fil du rasoir. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Et on est à la veille de la Révolution française, mais il y a eu aussi, à ce moment-là, une autre révolution qui se produit dans le domaine de l'opéra. Jusque-là, on l'a vu, il s'agissait de commandes de princes, réservées plutôt, sauf peut-être en Italie, à Venise, à un public aristocratique. Là, pendant toute la durée du XIXe siècle qui allait suivre Mozart et la Révolution française, là, vous le rappelez, dans l'opéra pour les nuls, ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement populaire, l'opéra. On allait à l'opéra comme on va aujourd'hui au cinéma ou à un concert rock.
Oui, tout à fait. C'était vrai, surtout en Italie, parce qu'en France, c'est resté assez empesé. Mais y a la figure de Verdi qui est vraiment une des grandes figures du Risorgimento, parce qu'on écrivait son nom sur les murs. Hein. Verdi, c'était...
On y reviendra, mais comment ça se passait, l'opéra? On a l'impression que c'était un peu d'ailleurs comme le théâtre, hein, des origines. On y allait, on mangeait, on s'occupait pas toujours, quand c'était mauvais, de ce qui se passait sur la scène.
C'était encore plus vrai peut-être au XVIIIe siècle où on allait pour écouter des vedettes, des castras ou des sopranos starisés. Et tant que ce n'était pas eux qui chantaient, tout le monde papotait dans les loges. Les loges étaient louées à l'année par des familles, donc c'était comme leur salon en fait. Hein. Ils invitaient des amis.
On saucissonnait.
Voilà, on saucissonnait. Et ça a duré encore une bonne partie du XIXe siècle. Stendhal fait des récits croustillants de représentations de Rossini, comme ça, où tout le monde saucissonnait ou jouait aux échecs dans les loges, dans les fonds de loges.
Et on était très attentif à l'intrigue, hein, surtout quand elle reflétait un sentiment profond, hein, comme celui, vous venez de le dire, qu'avaient les Italiens quand Verdi écrivait la musique d'un livret que lui présentait le directeur de la Scala de Milan en 1842.
Ah, Verdi.
Oui.
Tiens, regarde.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, le livret de Solera, celui que Nicolai n'aime pas. Oh, un sujet magnifique. Tiens, lis-le.
C'était un manuscrit en gros caractères comme il était d'usage alors. Nabucodonosor. Le regard se posèrent sur la page qui était devant moi. Et ce vers m'apparut.
L'aure dolce del suolo.
Je lis le livret non pas une, mais deux, trois fois.
Oh, mia patria. Si belle. Rimembranza si cara e fatale.
Nabucco de Verdi, le cœur des esclaves, sous la direction de Riccardo Muti et l'Ambrosian Opera Chorus et le Philharmonia Orchestra. Alors le cœur des esclaves, c'était les Hébreux qui s'affranchissaient, qui se libéraient de Nabucodonosor. Alors là, ça a parlé aux Italiens, ils étaient occupés par les Autrichiens et tous les opéras de Verdi ensuite étaient vraiment des manifestations contre les Autrichiens. On criait Verdi parce que les initiales de son nom, ça voulait dire Verdi, Victor Emmanuel, hein, c'était le roi de Savoie qui est devenu roi d'Italie, Victor Emmanuel, Re d'Italia, roi d'Italie. Tous les Autrichiens étaient furieux. C'est vraiment l'exaltation du sentiment national. On a dit la même chose d'ailleurs de Wagner, Claire de la Marche, qui était le grand rival et contemporain de Verdi.
Mais c'est sûr que Wagner a exalté la mythologie allemande et la langue allemande. A été récupéré par ça, puis il a été le premier à faire des écrits très tendancieux, antisémites,
non,
on peut le dire.
Limite, il était
antisémite. Ouais. Cela dit, enfin, je
on
pense
dit
que...
qu'il a inspiré Hitler même.
Oui, tout à fait. Ben, ça a été complètement récupéré. Et puis Bayreuth, son théâtre a été, sa famille était complètement récupérée par le nazisme. Mais je pense qu'on peut aussi voir l'œuvre de Wagner sur un plan plus esthétique, parce que la grande particularité, ce qu'il approche, c'est qu'il a voulu maîtriser tous les paramètres. Il écrivait les livrets lui-même, il a créé un théâtre à sa propre gloire, où il maîtrisait la mise en scène, évidemment la musique, et donc il s'est imposé comme le démiurge de l'opéra.
Alors il y aura après lui, ou en ce 19e siècle qui a été vraiment un peu l'apogée de l'opéra, il y a Bizet hein, qui a joué un rôle considérable avec Carmen évidemment, et puis on a l'impression qu'après le 19e, ben, il n'y a plus beaucoup de compositeurs, on se désintéresse en tout cas de l'opéra, et que les opéras qui ont du succès sont des opéras écrits au 19e siècle ou au 18e, comme s'il n'y avait plus d'imagination, comme si les compositeurs n'avaient plus d'imagination. Pourquoi est-ce que, et on le dit souvent aujourd'hui, est-ce que l'opéra c'est démodé, c'est trop élitiste, c'est trop cher, est-ce qu'il va durer longtemps? Parce qu'on a l'impression que la Starac un peu a détrôné la Scala.
Peut-être le cinéma aussi qui a pris le relais, qui est devenu cet art mêlant la beauté plastique, le sens des mots, la musique, enfin, donc il reprend un peu le relais pour jouer ce rôle fédérateur, ce rôle, cet impact universel que pouvaient avoir certains opéras. Cela dit, il y a de très grands opéras au XXe siècle encore, et bon, il y a Puccini, il y a Debussy, il y a plus récemment, il y en a un tas d'autres. La semaine prochaine, on donne à Genève un opéra de Jacques Leno sur une pièce de théâtre de Lagarce, qui va être sûrement un grand événement parce que c'est deux auteurs très forts tous les deux. Il reste une création, mais c'est vrai que on retrouve un peu maintenant le classique, un opéra assez classique où on privilégie le beau chant, les beaux décors, mais il y a eu toute une vague où on a essayé de faire autre chose, de trouver d'autres voies, de théâtre musical, etc., qui ont peut-être aussi un peu détourné les gens des salles.
Eh bien écoutez, il a de l'avenir à vous entendre et à vous lire aussi, Claire Delamarche. On se quitte justement exceptionnellement sur un des plus célèbres airs de l'histoire de l'opéra, Carmen de Bizet, chanté par Angela Gaujou. Je rappelle que mon invité Claire Delamarche a adapté deux ouvrages de David Pogg et Scott Speck, l'opéra pour les nuls, accompagné d'un disque compact comprenant les plus beaux airs d'opéra et puis la musique classique pour les nuls, tous deux diffusés aux éditions First, à mettre entre toutes les mains, comme c'est d'ailleurs écrit sur tous les livres de cette collection. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Roi Danse de Gérard Corbiot, disponible en DVD aux éditions France Télévisions, Amadeus de Miloš Forman en DVD chez Warner Home Video, ainsi qu'un extrait de Giulio Schiani consacré à Verdi, une série coproduite par la RAI, Antenne 2 et la BBC. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Christophe Papon, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac.
Si je te me prends garde à toi, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Jamais connu de loi, c'est une même. si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi.